تقربوا بارك الله فيكم rapprochez-vous inshallah.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأفاضل يسرني الالتقاء معكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى في هذا المجلس في هذا المسجد الطيب المبارك مع هذه الوجوه الطيبة المستبشرة وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما نقول وما نسمع نافعا لنا يوم القيامة وأن يجعل هذا المجلس مجلس خير وبركة وتقرب إلى وجه الكريم إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك الإمام الطبراني في معجمه يقول من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كأجر حاج تامة حجته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui sort de chez lui et se rend à la mosquée en ayant comme intention d'apprendre un bien, qui est donc une chose tirée du Coran ou bien de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de l'enseigner, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la récompense d'un pèlerinage complet. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de se rendre au pèlerinage, juste le fait de se rendre à la mosquée en ayant l'intention d'apprendre ou bien d'enseigner, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la récompense d'un hajj complet. وَهَذِي مِنْ نُصُوصِ الَّتِي تَحُثُ النَّاسِ عَلَى حُضُورِ مجالس الذكر ومجالس العلم فنسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه كما أخبرتم موضوع محاضرتنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون حول تفسير آية عظيمة من آيات القرآن بل هي أعظم آية في كتاب الله أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي وقبل ذلك علينا أن نعرف هل آية الكرسي مدنية أو مكية كما تلاحظون في آخر المصحف الشريف تجدون قائمة مكتوب فيها السور من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس، وتجدون أمام كل سورة مكتوب مدنية أو مكية. Je disais que, comme vous, le frère Abdurrahman vous a dit, le cours d'aujourd'hui sera sur l'explication de Ayat al-Kursi, qui est un verset de Surat al-Baqarah, que beaucoup de musulmans connaissent, mais dont beaucoup de musulmans ignorent la signification. Ce verset est le plus grand verset du Coran. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plus grand verset du Coran, si on vous demande quel est le plus grand verset du Coran, c'est Ayat al-Kursi. Avant de rentrer dans l'explication de ce verset, nous allons essayer de savoir est-ce que c'est un verset médinois ou bien mekkois. À la fin du Coran, si vous ouvrez la dernière page du Coran, vous trouverez toutes les sourates du Coran, du Fatiha jusqu'à Sourate An-Nas, et en face de cela, vous verrez mekkois ou bien médinois. Qu'est-ce que cela veut dire ? أولا سورة البقرة هي سورة مدنية باتفاق، هي سورة مدنية باتفاق. معنى كونها مدنية أنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من السور فهو مكي، وكل ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من السور فهو مدني. فسورة البقرة مدنية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا آية يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هو واقف بعرفة في حجة الوداع. هذه الآية من أواخر ما نزل من القرآن، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هو واقف بعرفة في حجة الوداع. عرفة من مكة، ولكن هذه الآية مدنية ولا مكية؟ علاش؟ نعم، لأنها نزلت بعد الهجرة، وإن نزلت في مكة. كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني. هذا مفهوم. Je disais que la sourate al-Baqara, le chapitre de la vache, est une sourate médinoise. Et comment savoir si une sourate est médinoise ou bien mekkoise ? Tout ce qui est descendu avant l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des sourates mekkoises. Et tout ce qui est descendu après son égir, ce sont des sourates médinoises. Même si un verset est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, mais après l'égir, ce sera un verset médinois. Est-ce que c'est clair ? سورة البقرة هي سورة عظيمة، هي أول أو ثاني سور القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. حديث رواه مسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit de ne pas rendre nos maisons telles des cimetières. Car malheureusement, beaucoup de musulmans ont rendu leurs maisons telles des cimetières. Pas de prière, pas de lecture du Coran, pas d'invocation, pas de rappel. Il faut que la maison soit vivante. L'endroit où on ne prie pas, c'est le cimetière. La prière est interdite dans un cimetière. Donc il faut que le musulman ne rende pas sa maison telle un cimetière, en la faisant vivre par la récitation du Coran, par la lecture de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le rappel et l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous dit: ne rendez pas vos maisons telles des cimetières. Et il nous informe ensuite que le diable, le shaitan, s'enfuit d'une maison dans laquelle est récité Sourate al-Baqarah. Une maison dans laquelle est récité Sourate al-Baqarah, shaitan, le diable, s'enfuit de cette maison et laisse un bon climat dans la maison, car le shaitan est parti. Et donc, si shaitan part, ce sont les anges qui le remplacent. وهذه السورة أيها الإخوة هي سورة مكث في حفظها عمر بن الخطاب رضي الله عنه كم؟ نعم 12 سنة وهو يحفظ سورة البقرة حتى أكملها وابنه مكث 8 سنين عبد الله بن عمر يمكث في حفظ سورة البقرة وليش هذا الوقت كله نعم لأن الصحابة كانوا يتعلمون القرآن والعمل معا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يعرف ما فيها من معان ويعمل بها فتعلم الصحابة القرآن والعمل معا عمر بن الخطاب est resté 12 ans à apprendre sourate al-Baqarah 12 ans beaucoup d'entre nous vont dire en un mois ou bien deux mois en faisant beaucoup d'efforts la personne peut apprendre sourate al-Baqarah Abdullah ibn Omar, son fils, est resté quant à lui 8 ans à apprendre Sourate al-Baqarah. Alors que une personne qui connaît un peu l'arabe peut l'apprendre en un mois ou bien deux mois, en apprenant un peu chaque jour. Pourquoi cette longue durée? Car les compagnons, et également ceux qui sont venus après eux, ne se contentaient pas de s'asseoir et de réciter le Coran jusqu'à apprendre. Non. Abdullah ibn Mas'ud, le célèbre compagnon, dit que si un d'entre nous apprenait 10 versets, il s'arrêtait. Il ne dépassait pas 10 versets jusqu'à qu'il connaisse l'essence de ces versets et qu'il les mette en application. C'est pour cela que vous voyez que les compagnons, Omar ibn al-Khattab, qui est le deuxième calife de l'islam, a pris 12 ans. Car il n'a pas seulement appris, il a appris et il a appris le sens de chaque verset qu'il a appris et il l'a mis en application. Donc il faut également, ça c'est ce genre de texte qui nous appelle à ne pas seulement avoir une lecture monotone du Coran, genre lire et en disant Alhamdulillah, j'ai lu le Coran en un mois. Non, il faut lire et essayer de comprendre en lisant l'explication du Coran tafsir ou en bien en assistant au cours de tafsir en écoutant des cassettes de tafsir et également en essayant de mettre en application ce que le musulman apprend et tire comme leçon de livres ou bien de cassettes ou bien de cours min fada'il ayat al-kursi kama dhakarna annaha a'zamu ayatin min kitabillah a'zamu ayatin min kitabillah إن كان الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر للقرآن الله عز وجل في آية كثيرة أمرنا بالتدبر للقرآن قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلم يدبروا القول الله تعالى في آية في آيات يحثنا على تدبر القرآن إن كان هذا هو شأن القرآن كله فكيف بأعظم آية في كتاب الله فكيف بأعظم آية في كتاب الله ذكر الله سبحانه وتعالى dans de nombreux versets nous incite et nous ordonne de comprendre ce qui est dit dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que nous avons fait descendre un livre béni afin que vous méditiez sur ses sens et afin que les gens doués d'intelligence se rappellent. Et dans d'autres versets également, il nous incite à comprendre ce qui se dit dans le Coran. Donc ça, c'est en ce qui concerne tout le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à comprendre tout ce qui est venu dans le Coran. Donc le fait de comprendre le plus grand des versets du Coran, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de le comprendre à plus forte raison. Car Ayatul Kursi, comme vous allez le voir, est le plus grand des versets du Coran. Rawa l'imam Ahmed عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أي آية أعظم أي آية عندك أعظم يا أبا المنذر. أبو المنذر هي كنية أبي بن كعب رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي آية عندك أعظم يا أبا المنذر. فسكت أبي فردد النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فقال أي آية عندك أعظم يا أبا المنذر. فسكت أبي رضي الله عنه فرددها مرة ثالثة فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم حتى ختم الآية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنيك العلم يا أبا المنذر, بمعنى هنيئا لك بهذا العلم يا أبا المنذر الذي أوتيته من الله سبحانه وتعالى, والذي نفسي بيده إن لها, يعني لآية الكرسي, لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم un jour est venu à Ubay ibn Ka'b. Au passage, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que أقرأكم Ubay, أقرأكم Ubay. Et il a dit au prophète, il a dit à Obey, quel est pour toi le plus grand des versets du Coran? Pas le plus grand dans la longueur, le plus grand dans l'importance. Il lui a dit, quel est pour toi le plus grand et le plus important verset du Coran? Obey ibn Ka'b n'a pas répondu à la question du prophète, il lui a dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui a posé la même question en lui disant quel est pour toi le plus grand des versets du Coran. Ubay ne lui a pas répondu. Il lui a alors posé la question une troisième fois et Ubay a répondu en disant Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, en disant que pour lui c'était Ayatul Kursi, et jusqu'à qu'il l'ait fini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit liyahnika al-ilm ya Aba al-Munzir, félicitations pour cette science que tu as reçue. Car Ubay, on lui pose une question. Ubay, premièrement, il fait partie des compagnons qui connaissaient le Coran par cœur. Aqra'ukum Ubay. Le prophète sallam a dit que celui qui connaît le mieux la lecture du Coran, c'est Ubay parmi les compagnons. Et également, c'est Ubay qui menait Salat Tarawih à l'époque de Omar ibn Khattab. Lorsque Omar a réuni les gens derrière un seul imam, c'était Ubay ibn Ka'b. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit félicitations pour cette science que tu as obtenue. Et quelle science? Sur tout le Coran, plus de 6000 versets, il a réussi à trouver quel était le verset le plus important. Et on va voir les causes pour lesquelles ce verset est le plus important du Coran. Car vous trouverez dans le Coran La ilaha illahu, qui est la plus grande des paroles. Et vous trouverez également Ismullahi al-A'zam fi Ayatul Kursi. Il lui a dit donc félicitations pour cette science. Et il a ensuite juré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit que Ayatul Kursi a une langue et deux lèvres qui glorifient Allah subhanahu wa ta'ala au pied du trône. Inna li hadhihi al-aya lisanan wa shafatayn tuqaddisu al-malika 'inda saqi al-'arsh. Min fada'il هذه الآية كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام النسائي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ليس بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. Le prophète صلى الله عليه وسلم a également dit en ce qui concerne Ayat al-Kursi, celui qui récite le verset de al-Kursi après chaque prière, il n'y a rien entre lui et entre son entrée au paradis sauf la mort. C'est-à-dire seule la mort l'empêche de rentrer au paradis. Ce qui veut dire en vérité que rien ne l'empêche au paradis d'entrer au paradis, car la mort est en vérité une cause de rentrer au paradis. Car les gens rentreront au paradis après leur mort. Donc rien n'empêche le musulman de rentrer au paradis. Donc il faut comprendre de ce hadith que parmi les choses à réciter après chaque prière obligatoire, Ayatul Kursi. Il y a beaucoup de gens qui récitent un peu de tout et n'importe quoi après la prière. Non, il y a des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait après la prière. Et c'est ce qu'il faut que le musulman dise après sa prière. Et chaque musulman doit apprendre ce qui se dit après la prière. Parmi ces choses-là, la récitation de Ayatul Kursi, qui est une cause de rentrer au paradis, comme vous venez de l'entendre, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa Ayatul Kursi, kadhalik, hiya min adhkar an-nawm. Hiya min adhkar an-nawm. وحول هذا قصة ظريفة حصلت لي لمن؟ لأبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفظ زكاة رمضان. كانت زكاة رمضان مجتمعة عند أبي هريرة يحفظها. وهذه من السنة أن تجمع زكاة الفطر ثم توزع على الفقراء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة لحفظ زكاة رمضان. فليلة من الليالي جاءه آت رجل فجاء وبدأ يحث من الطعام، يأخذ من الطعام الذي كان عند أبي هريرة. فرآه أبو هريرة فجاءه فقال له والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أنك تأخذ من زكاة الفطر؟ لا. فقال الرجل إن لي حاجة شديدة، معنى أنا فقير وعندي عيال، فخل سبيلي. فخل أبو هريرة سبيله. فلما أصبح جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء والخبر ما فعل أسيرك البارحة. فقال وجدته يحث من الطعام، فقال لي إن لي عيالا وحاجة شديدة فتركته. فقال أما إنه قد كذبك وسيعود ويرجع. فقال أبو هريرة فرجعت وعرفت أنه سيعود. كيف عرف أنه سيعود؟ ها؟ نعم، خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما كانوا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شي حاجة يصدقونه. فقال فعرفت أنه سيعود، وفعلا عاد. فجاء في الليلة الثانية، جاء وبدأ يأخذ من الطعام، فرآه أبو هريرة فقال له والذي نفسي بيده لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له مثل المرة الأولى، فتركه أبو هريرة. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فأخبره أبو هريرة بمثل ما فعل في الليلة الأولى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد كذبك وسيعود. ففي الليلة الثالثة جاء هذا الرجل فبدأ يأخذ من الطعام، فقال له أبو هريرة والذي نفسي بيده لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرة الثالثة تقول لي عندي حاجة وأنا فقير وعندي عيال وعندي أولاد وأتركك، الآن لن أتركك. فقال له خلي سبيلي وأعلمك كلمة تنفعك عند الله. فقال له وما هي؟ شنو هي ذيك الكلمة؟ فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. هذا الرجل قال أبو هريرة قرأ آية الكرسي، إذا يعني ذهبت للنوم لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فأصبح أبو هريرة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما فعل أسيرك البارحة؟ فأخبره، فقال وزعم أنه سيعلمني كلمة تنفعني عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما هي؟ فقال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبك وصدقك وهو كذوب. صدقك يعني هذا الرجل وهو كذوب. لماذا هو كذوب؟ لأنه هو الشيطان. ثم قال له أتدري من كان يأتيك في الليالي الثلاث؟ فقال أبو هريرة الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان. حديث رواه البخاري. Je disais donc que également ça fait partie des choses qu'il faut dire avant de dormir. Ayatul Kursi. Ayatul Kursi fait partie des choses qu'il faut dire avant de dormir. Et beaucoup de musulmans malheureusement délaissent cela. Alors que ça ne prend que, combien ça prend? 20 secondes. Et beaucoup de musulmans dorment sans dire ces choses-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait confié Zakat al-Fitr, qui est ce que chaque musulman donne à la fin du mois de Ramadan, il avait confié la garde de Zakat al-Fitr à Abu Huraira radiallahu anhu. Donc toute Zakat al-Fitr de la communauté musulmane à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam était réunie chez Abu Huraira, qui était censé faire attention à Zakat al-Fitr et surveiller Zakat al-Fitr pour que juste avant l'Aïd cela soit distribué aux pauvres. Une nuit lui est venue une personne est venue à cet endroit où il y avait Zakat al-Fitr et a commencé à prendre de la nourriture qui était réunie donc sous la protection d'Abu Huraira. Abu Huraira l'a vu. Il lui est venu et lui a dit Wallah, je vais t'emmener au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De quel droit tu viens et tu prends de Zakat al-Fitr qui est censé être pour les pauvres? Abu Huraira radiallahu anhu lui a dit non, cette personne a dit à Abu Huraira, je suis dans le besoin et j'ai une famille à nourrir. Abu Huraira a eu pitié de lui et l'a laissé partir. Le lendemain matin, Abu Huraira est venu à rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit: qu'a fait ton prisonnier la nuit dernière? Ma fa'ala asiruka al-bariha. Professeur Sallam a été prévenu de ce qui était arrivé à Abu Huraira. Abu Huraira lui a expliqué ce qui lui était arrivé et pour quelle raison il l'avait laissé partir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: il t'a menti et il va revenir. Il t'a menti et il va revenir. La seconde nuit, en effet, il est revenu. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit quelque chose, ça arrive forcément. Il lui a dit qu'il allait revenir et il est revenu. Donc il a commencé à reprendre de la nourriture et Abu Huraira l'a surpris une deuxième fois et lui a dit qu'il allait l'emmener vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit la même chose qu'il lui avait dit la première fois, qu'il était dans le besoin et qu'il avait une famille à nourrir. Et Abu Huraira l'a laissé partir. Le lendemain matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la même chose que la première nuit. Et Abu Huraira lui a expliqué la même chose que la première nuit. Et il lui a dit: il t'a menti et il va revenir. Une troisième fois. La troisième fois, il est venu et a commencé à reprendre de Zakat al-Fitr. Abu Huraira lui a dit: cette fois-ci, je ne te laisserai pas partir. Cette fois-ci, je ne te laisserai pas partir. Ça fait trois fois que tu me dis que tu ne reviendras pas, que tu es dans le besoin, que tu as une famille à nourrir, et tu reviens à chaque fois. Cette personne lui a dit: laisse-moi partir et je vais t'enseigner une parole qui te servira auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laisse-moi partir et je t'enseignerai une parole qui te servira auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira lui a dit: quelle est cette parole? Il lui a dit: lorsque tu te couches sur ton lit, lis Ayatul Kursi, car si tu lis Ayatul Kursi, une protection d'Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse d'être sur toi et aucun diable ne t'approchera jusqu'au matin. Personne qui lit Ayatul Kursi, une protection d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur lui jusqu'au matin et aucun démon ne l'approche jusqu'au matin. Abu Huraira, le lendemain matin, est parti et a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit que cette personne est revenue et a prétendu qu'elle allait m'enseigner une parole qui me servirait auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: quelle est cette parole? Il m'a dit de lire Ayat al-Kursi lorsque je veux dormir, et que si je fais cela, il y aurait une protection sur moi et qu'aucun démon ne m'approcherait jusqu'au matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: il a dit vrai, mais c'est un menteur. Il a dit vrai, mais c'est un menteur. Sadaqaka wa huwa kadhub. Le prophète lui a ensuite dit: est-ce que tu sais quelle est cette personne qui t'est venue pendant les trois nuits et a pris de la nourriture et t'a dit que je suis dans le besoin et j'ai des enfants à nourrir? Abu Huraira lui a dit: Allah, le prophète, et Allah et son prophète savent mieux. Irhamukallah. Allah wa rasuluhu a'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que c'était shaytan. C'est shaytan qui chaque nuit t'est venu et a pris de la nourriture, et c'est ensuite lui qui t'a enseigné cela. Tout cela pour montrer que Ayatul Kursi, le seul fait de lire Ayatul Kursi avant de dormir, cela fait que une protection est sur le musulman. Donc il faut que chaque musulman prenne comme initiative aujourd'hui, par exemple, de lire Ayatul Kursi avant de dormir. Une protection d'Allah sera sur vous jusqu'au matin et aucun démon ne vous approchera jusqu'au matin. Il faut que le musulman dès maintenant prenne l'engagement de se dire: aujourd'hui je vais lire Ayatul Kursi. C'est quelque chose qui prend 15 secondes, une demi minute. Fa inshallah sanabda fi tafsir هذه الآية. يقول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قل الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آية الكرسي مشتملة على 10 جمل. أول هذه الجمل قوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. افتتح هذه الآية باسم الجلالة الذي هو الله سبحانه وتعالى. الله معناه المعبود، الله معناه المعبود، لأن الإله مأخوذ من التأله وهو التعبد، فإله بمعنى المعبود. وهذا يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى وحده يستحق العبادة كلها، وحده يستحق العبادة كلها، ولا يجوز لأحد أن يصرف نوعا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. واش كنسمو صرف شيء من العبادة لغير الله؟ هو الشرك، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق، أعظم الذنوب عصي بها الله سبحانه وتعالى الشرك بالله. يقول الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولما سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأعظم الذنوب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ومن أجل هذه الكلمات جعلت هذه الآية أعظم آية، لأن قول المسلم لا إله إلا الله أعظم كلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن دعاء يوم عرفة قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جزاك الله سبحانه وتعالى أدي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Il a commencé cette sourate par son nom, Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs noms parmi ses noms. Allah, Allah est un nom parmi ses noms. Allah, le sens d'Allah est al-ma'boud, l'adorer. Et cela nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré. Donc toute adoration que le musulman fait, comme prière, comme jeûne, comme sadaqa, comme sacrifice, comme peur, comme amour, comme espérance, tout ce genre d'adoration, il est interdit aux musulmans de les faire pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car cela est ce que nous appelons shirk, l'association, et c'est le pire des péchés que nous puissions faire. Beaucoup de gens, lorsqu'on leur demande quel est le pire des péchés, ils vont dire le pire des péchés c'est de tuer. Ou bien le pire des péchés c'est de faire la fornication. Ou bien le pire des péchés c'est de voler. Ou bien le pire des péchés c'est de ne pas obéir à ses parents. Ou bien le pire des péchés c'est de boire de l'alcool ou bien de consommer des drogues. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un des compagnons lui a dit quel est le pire des péchés, ô prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors dit le pire des péchés est de donner à Allah subhanahu wa ta'ala un associé alors que c'est lui qui t'a créé. Le pire des péchés, c'est pire que tout ce que nous puissions imaginer. C'est pire que de tuer. C'est pire que de faire la fornication. C'est pire que de consommer des intérêts. C'est pire que de boire de l'alcool. Le pire des péchés sur la terre est l'association. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite dit La ilaha illa. C'est cette parole qui a rendu ce verset le plus grand des versets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit par rapport à l'invocation le jour de Arafah, il a dit la meilleure des invocations est l'invocation du jour de Arafah. Khairu du'a, du'a au yomi Arafah. Et la meilleure chose que j'ai dit, moi et les prophètes qui m'ont précédé, La ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. C'est-à-dire que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. À lui appartiennent la royauté et la gloire et il est capable de toutes choses. Le sens de la ilaha illallah, beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens traduisent la ilaha illallah par il n'y a pas de, il y a d'autres divinités qu'Allah. Vous trouvez ça souvent dans de nombreux livres. Vous trouverez il n'y a d'autres divinités qu'Allah. Et cela n'est pas une bonne traduction. La vraie traduction de la ilaha illallah, c'est nul ne mérite d'être adoré sauf Allah. Nul ne mérite d'être adoré sauf Allah. Car les gens qui traduisent la ilaha illallah par il n'y a d'autre divinité qu'Allah, c'est une erreur du fait qu'il y a d'autres divinités qu'Allah. C'est vrai que ces autres divinités ne sont pas vraies, mais il y en a d'autres, et des divinités qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans le Coran a appelées divinités. Anadharuka wa alihatak ij'allana ilahan kama lahum aliha. Les associateurs avaient des divinités, donc ce qui prouve qu'il n'y avait d'autres divinités qu'Allah. Il y avait Lat, Al-Uzza, Manat. Il y avait de nombreuses idoles à l'époque du prophète qui étaient adorées autres qu'Allah. Et même à notre époque, il y a des divinités adorées autres qu'Allah. N'importe quoi pour qui ou bien pourquoi vous faites une adoration, il devient une divinité. Isa alayhi salam est une divinité pour les chrétiens. Maryam pour les chrétiens est également une divinité, car les chrétiens font des adorations pour Isa alayhi salam et pour sa mère alayha salam. Donc toute chose pour laquelle une adoration est dévouée devient une divinité. Donc la vraie traduction de la ilaha illallah, c'est nul ne mérite d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah hiya da'watul anbiya wal rusul. Ma min nabiyyin illa wa annahu ja'a bila ilaha illallah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Wa laqad أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي سورة الأعراف لما ذكر قصص جملة من الأنبياء قال عن نوح أنه قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال هود عليه السلام لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال صالح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال شعيب عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل نبي من الأنبياء جاء بلا إله إلا الله يدعو قومه لعبادة الله وحده، ويدعوهم كذلك إلى ترك العبادة لغير الله سبحانه.